happer dans l'histoire littéraire.
Chaque semaine, partez à la rencontre d'une autrice méconnue, oubliée, ayant écrit dans les marges ou n'ayant laissé pratiquement aucune trace.
Au programme, des recherches littéraires, des recommandations de lecture, un segment médical et des invités sporadiques.
Retrouvez-nous tous les jeudis de 14h à 14h30 sur les ondes des Chiz 94.3.
Bisous!
L'ACADEL, c'est ton association étudiante à l'Université Laval. Avec plus de 35 000 membres, nous défendons tes droits, offrons des services pratiques et créons des activités qui font vibrer la vie de campus. L'ACADEL est là pour t'accompagner, t'inspirer et surtout booster ta session.
Nocturne, un environnement sonore au rythme envoûtant et hypnotisant. Nocturne, tous les mercredis, de 22h30 à minuit, un voyage quelque part entre le monde du réveil et celui étrange des rêves. Sur les ondes de Chiz 94.3.
C'est au coin extérieur, le tir.
Chiz 94.3, la radio des champions à Québec.
Avide de découverte? Tu veux être informé de tout ce qui se passe dans la ville de Québec et sur les ondes chiziennes? Visite le www.chiz.ca. Tu y trouveras critiques musicales, palmarès, nouveautés culturelles, informations, nouvelles sportives et l'écoute en direct. C'est un rendez-vous au www.chiz.ca.
Bonsoir à tous et à toutes. Vous écoutez 3600 secondes d'histoire, votre heure historique sur les ondes de Chiz 94.3 FM. Ce soir, à l'émission, qu'y a-t-il à boire au Québec? Mon nom est Marie-Andrée Tanguay. Cette semaine, nous recevons Mme Catherine Ferland, qui est historienne, conférencière, éditrice, autrice, entre autres du livre « À boire, alcool et buveur au 16e, 21e siècle », qui est paru aux éditions Septentrion dans la collection « Aujourd'hui, l'histoire avec ». Aujourd'hui, on va s'entretenir avec elle de l'histoire fascinante de la relation que les Québécois et les Québécoises entretiennent avec les boissons alcoolisées depuis plusieurs siècles, en fait des derniers siècles. Donc, auditeurs et auditrices, je vous invite à prendre, vous servir un petit verre de votre vin, bière ou spiritueux québécois préféré ou simplement un bon grand verre d'eau pour plonger dans cette émission des plus intéressantes. Bonjour, Mme Ferland.
Bonjour.
Bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation à l'émission.
Ça fait plaisir.
Donc, avant de plonger vraiment plus dans les différents alcools que vous traitez dans votre ouvrage, j'aimerais qu'on parle un petit peu plus du livre en particulier. Donc, pourquoi s'intéresser à l'alcool comme sujet de recherche, mais surtout pour le sujet d'un livre?
En fait, moi, ça fait quand même très longtemps que je travaille sur cette thématique-là. Ça va trahir mon âge, mais ça fait un bon 25 ans, en fait. J'ai fait ma thèse de doctorat sur les boissons, les buveurs et l'ivresse en Nouvelle-France. Oui, c'est un sujet qui m'a toujours interpellée. Puis pour répondre à ta question, en fait, c'est que j'ai toujours trouvé que s'intéresser aux alcools, ben comme on boit encore aujourd'hui, même si on boit moins, les statistiques nous le disent, mais ça fait quand même partie des comportements, des pratiques culturelles qui sont encore centrales dans nos rituels sociaux. Et quand je parle d'histoire d'alcool, souvent les gens me disent « Hein, j'aimais pas ça l'histoire, mais là t'es en train de me faire aimer ça ».
Oui, c'est un sujet super intéressant, là, qui est un peu commun, là.
Oui, parce que ça permet de toucher à toutes sortes de choses. Mm-hmm. Tu sais, à travers l'histoire de l'alcool, ben on parle des pratiques elles-mêmes, hein, évidemment, la manière dont les gens choisissent de boire ou de ne pas boire. Il y a beaucoup d'éléments qui sont en considération là-dedans, comme le genre. Mm-hmm. Les femmes, les hommes ne boivent pas de la même manière. Mm-hmm. À travers le temps, les classes sociales aussi. Il y a des éléments qu'on observe encore aujourd'hui qui ont une racine, qui ont des racines qui sont quand même assez loin dans le temps. Alors, ça permet de se donner de la perspective. Oui. Donc, ça continue de m'animer, même encore aujourd'hui. Là, je me tanne pas de travailler là-dessus.
Mais oui, puis en plus, avec l'histoire de l'alcool, on touche aussi beaucoup au patrimoine immatériel, l'immatérialité, oui.
Oui.
Avec tout ce qui est la fabrication, mais comme vous l'avez dit, les pratiques, les rituels autour de l'alcool, vous en mentionnez quelques-uns là, dans le livre. D'ailleurs, dans votre introduction, vous parlez du concept de biographical objects, qui est une méthode qui est employée par les ethnologues anglo-saxons, comme vous l'avez dit. Est-ce que vous pouvez définir cette approche-là et expliquer c'est quoi les avantages et comment elle vous a aidé, en fait, à réaliser la recherche et la rédaction de votre ouvrage?
Bien, en fait, malgré que ça puisse avoir l'air d'un concept théorique un peu obscur, en fait, c'est de traiter une boisson comme si on traitait d'un parcours d'être humain. Mm-hmm. En fait, c'est de s'intéresser à cette boisson-là dans sa genèse, son enfance, si je peux dire. Ensuite, comment ça se développe, comment les gens vont se l'approprier au fil du temps, comment ça va se transformer aussi, et jusqu'à nos jours. Donc, c'est vraiment une biographie d'objets et dans ce cas-ci, une biographie, par exemple, du cidre, mm-hmm. De l'eau de vie, du vin. Prendre chacun des alcools comme ça, puis le détailler afin de bien présenter d'où ça vient, comment ça a évolué. C'est vraiment cette approche-là qui, je trouve, est centrale dans le travail que je fais depuis déjà longtemps. Mm-hmm. En fait, c'est un héritage de ma thèse de doctorat parce que mon directeur de thèse à l'époque, Laurier Turgeon m'avait bien...
Ah, oui.
Hein, oui.
On le connaît beaucoup, oui.
Oui, c'est ça. Il m'avait bien judicieusement aligné sur cette littérature-là pour voir un petit peu de quoi je pourrais m'inspirer. Et effectivement, ça a été très, très porteur.
Ben oui, ben oui. Maintenant, là, à quel moment débute l'histoire conjointe des Québécois et de l'alcool? Et comment c'est arrivé, ça, cette relation-là?
En fait, il faut vraiment remonter à l'époque de la colonisation française parce que si on s'intéresse au Québec et aux gens qui habitent dessus, il y a vraiment rien qui s'est passé avant l'arrivée des premiers colons. Tout ça pour dire que les Premières Nations ou leurs ancêtres, en fait, même si on remonte très, très loin dans le temps, on n'a aucune trace matérielle de production et de consommation d'alcool fermenté traditionnel chez les premiers peuples. Il faut vraiment attendre l'arrivée des premiers colons pour voir justement arriver dans la vallée du Saint-Laurent des cidres, des bières, des eaux de vie, du vin, évidemment. Mm-hmm. Donc, tout ça date pratiquement de l'arrivée de Champlain, en fait. Il y en a eu un petit peu avec Jacques Cartier au 16e siècle, mais très, très peu. Donc, c'est vraiment au début du 17e que toute cette histoire-là démarre.
OK. Pour le premier bloc que j'ai intitulé « Consommation et fabrication », j'aimerais revenir sur certains des alcools, excusez-moi, qui sont les plus populaires là, dans les bars et les frigos des Québécois, Québécoises, mais aussi leur appropriation par la population. Ma première question, c'est en lien avec le cidre. C'est difficile d'aller dans un bar, dans un restaurant et de ne pas voir au moins une option de cidre, mm-hmm. que ce soit un cidre importé ou un cidre québécois. Mais ça n'a pas toujours été ainsi. Comment est-ce que le cidre a passé par des différentes phases de consommation plus fréquentes à des phases de presque d'oubli?
Mm-hmm. C'est une excellente question parce que dans le cas du cidre, c'est vrai que cette histoire-là est assez tortueuse. Alors, pour peut-être rappeler que le cidre, c'est une boisson fermentée. C'est pas une boisson qui nécessite nécessairement un appareillage compliqué. Mmh. Hein. On n'est pas dans les eaux de vie avec besoin d'un alambic et tout ça. Ça prend quelque chose d'assez sommaire pour être
une
capable.
Cruche,
oui,
généralement.
C'est ça, exactement. Donc, on peut fabriquer du cidre. Et là, je vais pas frustrer tout cidriculteur qui pourrait être à l'écoute, mais c'est pas si compliqué que ça, faire du cidre. Alors, on peut se demander comment ça se fait que cette histoire-là était un peu tortueuse, mais bon. Alors, faut remonter justement à l'époque de la Nouvelle-France. Au départ, il n'y avait pas de pommiers ici. Il a fallu amener des pépins pour démarrer des vergers. Et déjà, ben, on le sait, quand on décide de faire du cidre, on sacrifie un peu la pomme parce qu'elle ne pourrait pas être mangée, elle ne pourrait pas être consommée sous une autre forme. Donc, c'est un peu le sacrifice d'une possibilité de s'alimenter au profit de quelque chose qui simplement va faire plaisir au palais. Alors, ça aussi, ça explique la raison pour laquelle, pendant le régime français, on a fait du cidre un peu, mais ce n'était pas une production très, très imposante. On préférait visiblement garder les pommes pour la consommation. Avec le régime anglais, ça change un petit peu. Il y a quand même une production cidricole qui va s'installer, mais ça demeure assez modeste. Et à un moment donné, là, on fait un bond dans le temps, mais au début des années 1920, quand il y a eu la création de la loi qui a mis en place l'ancêtre de la SAQ, donc la commission des liqueurs.
Comme certains l'appellent encore.
Oui, c'est ça. Quand on parle à des personnes très âgées, ils vont parler, la commission des liqueurs ou la régie des alcools.
Oui.
Alors là, c'est vraiment l'ancêtre de la SAQ qu'on connaît aujourd'hui, mais cette cette institution-là est créée en 1921. Et là, quand on regarde le texte de loi, on se rend compte que le cidre n'est pas nommé dans la loi. C'est comme si il est pas illégal, mais il est pas non plus légal. Il est comme dans une espèce de flou,
grise.
Oui, exactement. Puis ça fait en sorte que quelqu'un qui produisait du cidre dans les années 20, 30, 40 ne pouvait pas s'afficher comme cidriculteur en titre. Fallait qu'il aille avec des périphrases genre vin de pomme ou des choses comme ça. Ce qui a absolument aucun sens, là. C'est un peu absurde. Alors, ça a pris une soixantaine d'années avant qu'on rectifie la situation. En fait, plutôt 58 ans. Quand on a rouvert le texte de loi pour la réviser, pour ajouter des choses, ben là, on s'est assuré, évidemment, que le cidre soit dans cette nouvelle acception-là. Mais disons que le mal était fait. Les gens n'avaient pas nécessairement développé une habitude de consommer du cidre. Ça a pris du temps là avant qu'on puisse voir la cidriculture s'épanouir au Québec.
Oui. Au long de son histoire, les Québécois ont consommé, mais aussi fabriqué des alcools. J'aimerais ça qu'on prenne un petit moment pour revenir sur l'histoire de certaines, sur les bières maison, les vins maison, aussi les alcools de macération. En gros, ça ressemblait à quoi l'histoire de ces différents alcools-là au fil du temps?
Oui, ben en fait, ça, c'est une très bonne question. On a dans les alcools, on pourrait dire, considérés comme maison, ceux qu'on fait de A à Z, justement, les trucs fermentés. On prend quelque chose dans lequel il y a du glucose, du sucre. Ça peut être un fruit, ça peut être une céréale, dans le cas de la bière, par exemple, et on fait fermenter ça. Donc ça, c'est la première catégorie. Mais il y a toutes ces autres catégories un petit peu, je dirais, du domaine du bricolage.
Ouais.
Par exemple, quelqu'un qui dit, moi, j'ai acquis un petit peu d'eau de vie, je vais faire macérer là-dedans des fruits, des écorces, des trucs. Et là, on est comme à la jonction entre un alcool qui est fabriqué, mais un alcool maison. Donc, encore là, on parlait de zone grise tantôt, c'en est une aussi. Donc, il y a un petit peu ces deux systèmes-là qui vont coexister tout au long de l'histoire de l'alcool au Québec. Alors, on est un peuple de patenteux, et ça se sent oui, en matière d'alcool. Moi, j'aime bien raconter l'anecdote suivante, c'est que, à l'époque de la Nouvelle-France, il y a tout un circuit d'approvisionnement qui se met en place, mais c'est pas tout le monde qui a accès à ça. Par exemple, les gens qui étaient les militaires, entre autres, dans les forts éloignés, là, dans la région des Grands Lacs, par exemple, des fois, ils avaient pas accès aussi facilement que ça au vin ou même si c'était prévu dans leur ration de militaires, des fois, il arrivait que les barriques ne se rendent pas. Alors, ces gens-là se débrouillaient très, très bien. Ils se fabriquaient des genres de vins, de fruits dans les forts. Donc, ils allaient à la cueillette, aux petits fruits, aux bleuets, aux baies qu'ils pouvaient trouver autour et ils se fabriquaient des alcools maison comme ça. Il y a eu, à travers l'histoire du Québec, à travers les siècles, toujours cette ingéniosité-là. C'est comme si les gens n'étaient pas capables de se résoudre à ne pas avoir quelque chose dans leur verre et ils se débrouillaient pour pouvoir au moins produire pour leurs besoins de base.
Oui, c'est une petite anecdote personnelle. Chez nous, il y a quelques années qu'on a commencé à faire du vin de pissenlit. Je ne m'attendais pas à ce que... Avant que je connaisse existence de ce produit-là, je m'attendais pas à ce que on puisse créer des alcools maison comme ça avec des fleurs qui sont aussi communes que des pissenlits. Mais vous en avez même mentionné un petit extrait, ça montre à quel point que les gens étaient débrouillards, en fait, de pouvoir s'approvisionner comme ça avec des produits très accessibles comme ça. Surtout que les pissenlits, c'est super comestible, c'est bon même. mais aussi, quand on pense aux alcools québécois plus traditionnels, on pense beaucoup au caribou. D'où vient cet alcool-là, puis comment que c'est devenu aussi un alcool emblématique du carnaval?
Alors ça, c'est beaucoup plus récent, évidemment. On remonte à ce moment-là une centaine d'années d'aujourd'hui. Donc, on est plutôt au début du 20e siècle. En fait, moi, je suis partie sur la trace du caribou, littéralement, comme une trappeuse d'informations, parce que je me demandais, voyons, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Même sur le site web de la SAQ, aller jusqu'à tout récemment, il y avait de l'information fausse qui était véhiculée à l'effet que c'était une boisson traditionnelle des Autochtones, puis qu'il y avait vraiment du sang de caribou là-dedans.
C'est mythique un peu.
Pas de bon sens.
Non, c'est ça.
Je me disais, voyons, c'est certain que la vérité n'est pas là. Donc, j'ai voulu creuser cette question-là. Puis, à un moment donné, ce que j'ai découvert, tout simplement, c'est que en Ontario, il y avait une distillerie qui fabriquait un alcool qui était appelé caribou.
Okay.
qui était commercialisé au Québec. On en a des mentions quand on fait un petit peu de recherche dans les archives. On le voit dans les journaux anciens, il y avait des publicités pour cet alcool-là. Alors, je pense que quelqu'un, tout simplement, à un moment donné, qui s'est dit, ben moi, je vais prendre le Caribou, la boisson qui s'appelle comme ça, qui est commercialisée sous ce nom-là. J'ajoute des petites choses et c'est devenu une sorte de punch, un panaché de plusieurs trucs. Donc, quand on remonte un petit peu, ben c'est beaucoup au début du 20e siècle. Mais ceux et celles qui l'ont popularisé, c'est vraiment les habitants de l'ancienne rue du Carnaval, comme on l'appelait, la rue Sainte-Thérèse à Québec, qui s'appelle maintenant la rue Raoul-Jobin, qui est dans Saint-Sauveur. Donc, c'est une artère où il y avait beaucoup de statues, de glaces, de sculptures, de neige, de choses comme ça qui étaient très populaires. Et les gens qui sculptaient, à un moment donné, avaient froid. Et là, quelqu'un leur a dit, ben, rentrez dans mon sous-sol, là, je vais vous faire un petit punch, un petit quelque chose. Et cette personne-là, tout à coup, est devenue un peu le père du Caribou. Et il s'appelait d'ailleurs, il se surnommait Tipper, justement. Donc, la voûte à Tipper était l'endroit où aller boire le Caribou. Il y a eu des concurrents, évidemment, mais c'est ça. La recette canonique, c'est un alcool fort, du vin Saint-Georges, du vin fortifié, des petites épices secrètes. La recette exacte, malheureusement, n'a jamais été transmise. Elle n'a pas été diffusée largement.
Donc, le nom du Caribou, en fait, ça vient un peu comme plusieurs choses dans le vocabulaire québécois, un mot qui vient d'ailleurs, qu'on l'utilise pour un contexte particulier.
Absolument!
comment a été introduite, en fait, la viticulture et la viniculture pour les auditeurs auditrices qui seraient peut-être mêlés à savoir si j'ai dit deux fois le même mot avec une lettre qui manque? La viticulture, c'est la culture des vignes. Mm-hmm. La viniculture, c'est la fabrication du vin. Donc, comment ces deux cultures-là sont arrivées en sol québécois? Et ça a été quoi les plus grands défis, mais aussi quelques réussites de cette culture-là chez nous?
Ben oui, en fait, c'est intéressant parce que tantôt, ce que je disais à propos de la pomme, qu'il n'y avait pas de pomme ici, ben avec le raisin, au contraire, il y avait du raisin sauvage qui poussait dans la vallée du Saint-Laurent à plusieurs endroits. Dès les premiers voyages qu'il y a eu dans la vallée du Saint-Laurent, les explorateurs ont remarqué ça. Ils ont dit, waouh, OK, il y a de la vigne qui pousse, entre autres, à l'île d'Orléans et tout ça. Ils l'ont surnommé l'île de Bacchus.
Oui,
c'est pas pour rien, hein. C'est très poétique, très vendeur, très marketing encore aujourd'hui. Donc, on avait la matière première, mais il faut comprendre que ce raisin-là qui poussait de façon non cultivée, cultivé de façon spontanée, c'était pas la même variété que le raisin européen. Là, sans faire un cours de viticulture 101, simplement dire que la variété européenne, Vitis vinifera, est vraiment celle où il y a le plus de jus, de sucre. On est capable de presser ça et d'obtenir quelque chose qui est vinifiable, finalement. Alors que le raisin ici, c'était un raisin un petit peu comme les gros raisins Concorde bleus là, qu'on achète à l'automne à l'épicerie.
Mais les raisins un peu amers.
Oui, avec un gros pépin là, assez amer, effectivement. La pleure et tout ça, puis c'est assez gélatineux. Mm-hmm. Faire du vin avec ça, ça n'a pas de bon sens. Même si les Français de l'époque ont essayé au début du 17e siècle de presser ces raisins-là, le résultat n'était pas très bon. Ils ont essayé d'importer des vignes ici, européennes, mais ça ne fonctionnait pas. Il faut comprendre qu'un petit plant de vigne habitué au climat méridional, amener ça au Québec avec nos hivers, ça ne fonctionnait pas du tout. Donc, la viticulture, comme on la connaît, ça a vraiment pris pas mal de temps, en fait, beaucoup d'acharnement, 19e siècle surtout, où on a commencé à être capable d'avoir des vignes dignes de ce nom. Il faut dire aussi que c'est à ce moment-là qu'on a commencé à travailler avec... on développait un peu les notions de botanique et de création d'hybrides. Et c'est là qu'on a eu l'idée d'hybrider des vignes vinifera européennes avec des plants locaux pour avoir un plant qui résiste aux hivers québécois, mais qui est quand même agréable.
Ouais.
Et là, tout à coup, ça a permis une belle viticulture. Mais ça, c'est intéressant. À la fin du 19e, il y avait vraiment de grands vignobles au Québec. Ça, on l'a complètement oublié ou presque. Mais cette culture-là a eu un petit peu le vent dans les voiles à un moment donné, mais en raison de la prohibition puis tous ces événements qui ont un peu contribuer à faire en sorte qu'on l'efface un peu du paysage culturel, ben c'est né à nouveau plutôt dans les années 1960, notre viticulture.
Ah, fait qu'on aurait pu avoir développé une super belle culture et industrie du vin au Québec si on n'avait pas oublié cette partie-là.
Effectivement, oui, il y a eu un grand bout de temps. Là, toute la première partie du 20e siècle, À part quelques petites initiatives ici et là au Québec, entre autres à Charlebourg, il y avait une ferme expérimentale, mais sinon il y avait presque rien là. C'était quelques gens un peu considérés comme des crinqués qui faisaient de la viticulture dans ces années-là. Donc ça a pris beaucoup de détermination pour arriver à ce qu'on connaît aujourd'hui.
Ouais. Puis même avec cette hybridation là des vignes européennes puis canadiennes, j'imagine que le raisin reste un peu plus amer que le fruit européen, il doit avoir moins de sucre, donc on doit changer un peu la fermentation.
Ça dépend. Ouais. Je pense que maintenant, aujourd'hui, on fait de très, très bons vins blancs. Les rouges, on a encore du travail à faire, c'est vrai. Il y a un équilibre à aller chercher entre l'acidité et le sucre. Des fois, c'est pas facile. Par contre, ce qu'on a amélioré aussi, c'est outre le fait d'avoir des hybrides, c'est les techniques de culture. Ouais. Hein, maintenant, on a des genres de toiles géotextiles spéciales qu'on peut mettre sur les vignes qui permettent de maintenir en vie des vignes qui autrefois, avec des moins 30 parfois, comme on a, là, moins 30 degrés Celsius. Ben, bon, maintenant, on est capable de les garder en vie. On a de meilleures techniques, donc ça permet cette viniculture maintenant.
Oh, mais c'est des belles avancées. Hein. Le peuple québécois s'adapte à son environnement, comme
oui,
toujours.
Oui, tout à fait.
Maintenant, est-ce que vous pouvez nous parler d'un autre type de vin, les vins toniques? Pour quelles raisons est-ce qu'on consommait ce type de vin-là?
Ça, je les aime beaucoup. Ah, bon, les vins toniques, déjà, il faut s'imaginer. OK, on se met en scène, là, on a une publicité dans un journal. On est dans les années 1930, par exemple. Et là, tout à coup, on tourne les pages et on tombe sur un vin de quinquina pour les gens faibles. Hein? Là, c'est ça la réclame, c'est qu'on dit, vous manquez de tonus, vous manquez de pep, finalement. Vous êtes pâle, ça va pas, votre santé est défaillante. Eh bien, consommez le vin, machin. Et ces vins-là, ces publicités pour ces vins-là pullulaient dans la presse écrite pendant un temps. Les gens se tournaient beaucoup vers ça parce que on avait un peu cette croyance ancienne que l'alcool pouvait tonifier, justement, pouvait donner un petit coup de fouet, réchauffer le corps, alors qu'on
c'est
était
encore,
peut-être...
une croyance qu'on a un petit peu à un certain niveau. Là.
Ben après tout, quand on dit on s'enivre, des fois on dit se mettre chaud.
Oui.
Ben c'est un petit peu cet univers de pensée-là qu'on avait beaucoup à l'époque des vins toniques. Aujourd'hui, on les chercherait un peu parce que, bon, Santé Canada passerait en arrière et dirait, ouais, cet ingrédient-là, c'est un peu limite. Mais à l'époque, quand on regarde la composition de certains de ces vins, ben justement, tout à l'heure, je parlais de quinquina, ben de la quinine. Ça, c'est quelque chose qu'on trouve, entre autres, dans le tonique dans lequel on... Bon, par exemple, quelqu'un qui se fait un gin tonic, on utilise une eau tonique, il y a encore du quinquina là-dedans. Mais à l'époque, l'extrait de quinquina, on l'envoyait directement dans le vin. On pouvait ajouter d'autres aromates. J'ai vu toutes sortes d'affaires. Il y avait un vin de coca à un moment donné, des stimulants. Les gens raffolaient de ces produits-là parce que c'était un peu les Red Bull de l'époque. Ça donnait vraiment de la drive.
En même temps, s'il y a du coca dans un vin, c'est sûr que les gens vont en raffoler.
Y a des chances. Ça modifie le comportement, ça c'est certain. Mais ça a très bien fonctionné. Puis surtout, ça survenait à une époque où, comme je disais, la publicité était en plein essor. Ouais.
Maintenant, j'aimerais qu'on parle d'un alcool. On le sort à tous les réveillons du jour de l'an, on le sort au mariage, aux anniversaires, le champagne.
Ah,
ça a toujours été associé aux... c'est maintenant complètement associé aux grandes occasions. Comment est-ce que la fabrication du champagne, mais aussi son commerce, a fait en sorte que c'est devenu un produit plus de luxe qui est réservé pour les occasions spéciales?
Ben, il faut remonter évidemment dans l'histoire européenne, en fait, en France, dans la région de la Champagne. D'ailleurs, pour les gens qui pourraient se poser la question, c'est plus connu aujourd'hui, mais précisons quand même que un vin mousseux, s'il n'est pas produit en Champagne, vraiment dans cette région-là, on peut pas l'appeler Champagne.
C'est juste
évidemment. Mais oui, c'est ça. Mais bon, de nos jours, c'est sûr qu'on peut se dire un mousseux d'Espagne, un mousseux de un prosecco d'Italie. On le sait, ça va être des bulles, ça va être la réjouissance quand même. Mais si on veut vraiment revenir à l'histoire du champagne, en fait, depuis ses débuts, c'est un vin qui a toujours été un peu capricieux parce que on a toujours fait du vin en champagne, mais le champagne, vraiment, celui qu'on connaît, l'effervescence et tout ça, ça fait pas très longtemps qu'il est maîtrisé. Ça a pris des années de perfectionnement pour être capable d'avoir des bouteilles capables de conserver un vin effervescent comme ça.
Ouais.
Il faut comprendre qu'un vin dans lequel il y a autant de gaz carbonique, ben ça fait beaucoup de pression. Mettre ça dans un tonneau, ça fonctionne pas. Le tonneau va éclater. Mettre ça dans une bouteille, on va dire normale, Le verre éclate aussi. Ça a pris donc des perfectionnements plutôt techniques au plan de la bouteillerie, de la façon dont on fabriquait les bouteilles. Et quand on a eu les bons vaisseaux pour accueillir ce vin-là, ben ça a rendu possible la création du champagne. Donc, on est plutôt à la fin du 17e et surtout au 18e siècle quand ces perfectionnements-là sont en place.
Puis juste pour mettre un repère temporel, à peu près quel siècle qu'on a commencé à faire du vin en Champagne?
Oh, ben ça remonte littéralement à l'époque des Romains.
Fait que c'est beaucoup de temps, là.
Oui. Des milliers d'années, on pourrait dire. C'est vraiment très long. La présence en Champagne, mon Dieu, la présence humaine, ça remonte au néolithique, donc ça fait vraiment longtemps. Mais la vigne elle-même, ça a pris quand même... C'est ça, à l'époque des Romains, on a vu cette propagation-là de la vigne un peu partout en Europe. Ça montait à mesure que les armées romaines montaient aussi. Et le champagne, le vin en champagne est produit depuis longtemps, mais le champagne comme on le connaît, ça c'est vraiment, comme je disais, beaucoup plus récent.
Ouais, donc c'est vraiment en fait les contenants là qui ont fait que c'est devenu un produit de luxe.
Puis comme c'était compliqué, ben c'est un petit peu pour revenir à ta question, ben oui, quand c'est compliqué à obtenir, nécessairement ça coûte plus cher et nécessairement ce sont que les personnes de l'élite économique qui sont capables de se le procurer. C'était vrai en Nouvelle-France, on a eu du champagne ici dès les années 1720, 1730. C'était possible d'en acheminer aussi loin qu'en Nouvelle-France, ça voyageait par bateau, mais comme je disais, ça prenait de bonnes bouteilles. Puis par la suite, ben sous le régime anglais, on a continué quand même à apprécier le champagne, puis par la suite également, toujours associé aux événements spéciaux, effectivement, parce que c'est tellement compliqué à obtenir, tellement dispendieux, encore aujourd'hui.
Oui. Donc avant de poursuivre notre discussion, on va prendre une petite pause publicitaire, donc on vous revient dans quelques instants.
Ma mère me disait que c'était bien, bien simple. C'était parce que j'ai manqué de lait, c'est pour ça que j'avais soif de même. Ma mère me disait que c'était bien, bien simple. C'était parce que j'ai manqué de lait, c'est pour ça que j'avais soif de même. Ah ouais. Ma mère me disait que c'était bien, bien simple. C'était parce que j'ai manqué de lait, c'est pour ça que j'avais soif de même. Ma mère me disait que c'était bien, bien simple. C'était parce que j'ai manqué de lait, c'est pour ça que j'avais soif de même. Ma mère me disait tout ce qui est plus logique. Si j'avais soif de même, c'est dû un sevrage trop drastique. Mais maman, tu te trompes sur mon coche. J'ai le gars coton aussi sec, c'est plutôt tous les petits tracas. Qui la chasse, qui la sèche, on est jusqu'au bout dans la dèche. Autant tracas qu'un mec, la dèche, je peux bien avoir aussi soif. L'impôt, l'hydro, les médecins, les états, les frais dentaires, les taux bancaires, entendu les taux qui se resserrent comme les serres, serrer des rabats, la pirate, c'est les taxes, les traites, les visages, à neuf, faire zéro. Ben, si je fais patate, ben non, je suis bête dans le bête. Je peux mater quand je baisse. Les touches, les fraîches, les concours de chat télévisibles. C'est un glamour, les sims centrés, les patates, puis l'instantané, le site d'orange, j'ai dégosé le recyclage pour recycler les coupes d'eau pour fentanyl. Tu sais qu'il y a faute de débile, un assis plan d'affaires de con. Faut que tu quittes ta compétition, c'est pas des habitudes qu'il faut que tu tues, pas, j'suis pas mal sur tes verres obus. Ma mère me disait que c'était bien, bien simple. C'est parce que j'ai manqué de lait, pour ça que j'avais soif de même. Ma mère me disait que c'était bien, bien simple. C'est parce que j'ai manqué de lait, pour ça que j'avais soif de même. Oh, oui. Maman, tu te trompes sur mon cas. Si j'ai le gargoton aussi sec, c'est plutôt double les petits tracas. Qui la chaise, qui la sèche, on est jusqu'au bout dans la dèche. Autant tracas que avec la dèche, je peux bien avoir aussi soif. Les beaucoup de loups, plus de l'ambition, les nombrilistes, les potatons, les yeux, les bras, les balances et les vaches que. C'est juste ce qui me fait chez moi pour les pruneaux, puis le McDo, à part la viande à varier, puis les noyaux d'habanero. Mais au nez, ce qui me pue, c'est de pas pouvoir voir dans la rue. Pourtant, je milite et je milite pour pouvoir voir sa voix publique. Mais ta ticket après ticket, mais ça change pas sa régression. Donc, ici, la rue à nous, pour y croire, faut être fou. Les canicules, l'apocalypse, hiver, les climato-sceptiques, les de tickets, plus de litres, la miande envers mes culettes, toutes les millions de cancers, tout les terroristes sont au pouvoir, les soirées qui manquent de bière, la cette journée des éphémères, ça fait chier quand t'es en basique, manger les bébés, c'est pas le trimac, c'est pas piquer des lambrics, me bouffer toutes les chèvres. Ma mère me disait que c'était bien, bien simple, c'est parce que j'ai manqué de lait, pour ça que j'avais soif d'amain. Ma mère me disait que c'était bien, bien simple, c'est parce que j'ai manqué de lait, pour ça que j'avais soif d'amain. Ma mère me disait tout ce qu'il y a de plus logique. Si j'avais soif de même, c'était un sauvage trop drastique. Mais si j'ai manqué de lait, je te jure que j'ai pas manqué de sang. J'aurais été gâté sur ce coin, toujours quelques-uns sur la main. On m'en offre encore d'ailleurs la soirée avec des marquettes noires. De mon nom, je les habille, souvenir à l'encre des débiles. Ma mère me disait que c'était bien, bien simple. C'est parce que j'ai manqué de lait, pour ça que j'avais soif de même. Ma mère me disait que c'était bien, bien simple. C'est parce que j'ai manqué de lait, pour ça que j'avais soif de même. Ouais!
Vous écoutez CHIZ 94.3 FM à Québec.
Oui, allô, entre nous, podcast bonjour. Oui, ici on ne court pas après le buzz, on prend le temps de se parler. Alors assieds-toi confortablement sur ton canapé. Rejoins-nous les mercredis deux fois par semaine de 13 à 14 heures.
Étudiants et étudiantes de deuxième cycle, connais-tu les services offerts par l'Allier? C'est facile. Les assurances collectives, la SEC, le soutien financier, comme on dit, accompagnement droit étudiant, les retraites de rédaction, l'agenda universitaire, les services aux assos et le pass universitaire. Pour nous rejoindre, c'est facile. Envoie juste un courrier à allier@commercial.ulaval.ca.
Bienvenue à votre session de braillage hebdomadaire. Ou pas, on sait pas. Une fois de temps en temps, là. Mais moi et Kevin vous présente le meilleur de la musique emo d'hier, de maintenant et de demain. Sur les ondes de CHIZ 94.3, quand ça nous tente.
Falls.
Vous êtes de retour à 3600 secondes d'histoire sur les ondes de CHIZ 94.3 FM, où on s'entretient présentement avec Madame Catherine Ferland à propos de son ouvrage « À boire, alcool et buveur au 16e, 21e siècle ». Donc avant la pause, on a discuté de l'origine de certains de nos alcools préférés, mais maintenant j'aimerais qu'on porte notre discussion davantage sur l'influence que l'alcool a sur nous en tant que société. La période des années folles a été marquée par la prohibition. C'est assez, ça peut sembler contradictoire. On faisait la fête parce qu'on était heureux de la guerre soit finie, mais aussi après avec des bonnes circonstances économiques. Mais en réalité, ben, il y avait la prohibition qui était mise en place en bonne partie en Amérique du Nord. Donc ce terme-là, quand on mentionne la prohibition, on pense à la contrebande et la fabrication illégale de spiritueux. Comment est-ce que le Québec a vécu la prohibition?
Ce qu'il faut dire à propos de la prohibition, surtout parce que oui, tu le mentionnes bien, c'est en Amérique du Nord, mais pas partout de la même façon. Aux États-Unis, prohibition totale de 1920 à 1933. Au Canada, c'est beaucoup plus compliqué parce que le fédéral, voyant que c'était une question un peu épineuse, a eu l'excellente idée, entre guillemets, de refiler le problème aux municipalités. C'était au niveau municipal. Chaque ville devait décider si elle autorisait ou non la production et la consommation d'alcool sur son territoire. Alors, il faut s'imaginer des situations un peu débiles, en fait, où on pouvait avoir une ville qui décidait « Non, 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 nous, on va être une ville sèche », c'est ce qu'on disait à l'époque. Donc, une ville sèche, pas d'alcool. Et la ville voisine, ben oui, il y a de l'alcool.
Ils font la fête.
Ben oui. Alors là, les petits sentiers, les petits chemins de traverse, là, c'était très fréquenté. Et c'est pas parce que quelqu'un habitait une ville sèche qu'il était d'accord avec le règlement municipal. On peut s'imaginer donc le trafic assez intense qu'il pouvait y avoir entre toutes ces municipalités-là. Et aussi certaines régions au Québec. Donc, on a eu comme ça des villes qui toléraient pas du tout l'alcool, alors que pour d'autres endroits, c'était permis. Si on pense notamment à Montréal, il n'y a pas eu de prohibition.
Ah non?
Pas du tout. Alors, ça a été quelques jours, je pense, c'était vraiment minime. Et Montréal est devenu un petit peu la New York par défaut. C'était la Chicago par défaut. Les Américains arrivaient au Québec pour aller faire la fête, entre autres à Montréal. Alors ça a été très, très marquant aussi dans le parcours de l'histoire municipale, on peut dire, de Montréal. Mais d'autres villes ont eu un peu ce parcours-là. Mais si on se met plutôt à un niveau de producteur, on en parlait en début d'émission, hein, de patenteux, de gens qui aiment être créatifs avec l'alcool, de s'en procurer, de le fabriquer. Ben la période, ça a été une manne pour les gens qui avaient un peu de débrouillardise. On a vu des alambics illégaux fleurir dans plein d'endroits. Les gens, par exemple, qui possédaient une terre qui avait une érablière, par exemple, ou une terre à bois, s'installaient une petite remise là dans le fond, un peu cachée, et dissimulaient des appareils à distiller là-dedans, donc des alambics, des serpentins. Des fois, c'était rabiboché avec n'importe quoi. On regarde le truc et on se dit, mon Dieu, comment ça fait pour tenir ensemble.
Puis probablement soudé au plomb. Là.
Oui, dans certains cas, effectivement, tu fais bien de le mentionner. Il y a eu des cas d'empoisonnement parce que c'était fait vraiment à la petite semaine, là, avec les moyens du bord, comme on dit. Et c'était pas toujours... c'est ça. Ça donnait pas nécessairement des produits de qualité égale. Hein. Et il y a eu là-dedans des petites réussites commerciales. Il y a des gens qui ont bien flairé le fait que il y avait une bonne affaire à réaliser avec ça, qui ont établi des réseaux de commerce. On parle de certains bootleggers à ce moment-là, des gens dont la carrière s'est construite sur la contrebande d'alcool, à organiser des petits circuits là, de transport pendant la nuit, au clair de lune. D'ailleurs, ça a donné
le moonshine.
Le moonshine, exactement. Des fois, c'était des alcools qui transitaient par des villes et des municipalités, aussi des endroits comme Saint-Pierre et Miquelon. Certains alcools de contrebande s'appelaient comme ça aussi le Miquelon ou le Saint-Pierre. C'est toutes des petites traces dans la nomenclature là, qui nous rappelle le fait que c'était des alcools qui passaient par des circuits commerciaux un peu surprenants.
Puis une des idées reçues avec justement le moonshine et tous les alcools de contrebande, c'est que ça rendait aveugle à cause des hauts taux d'alcool. Mais je ne sais pas si dans vos recherches, vous avez vu ça, le nombre de cas qu'on pouvait répertorier de personnes qui avaient eu des conséquences vraiment graves par rapport à la consommation de ces alcools-là?
Malheureusement, c'était pas compilé parce que les gens qui se rendaient malades ne s'en vantaient pas. Ça voulait dire qu'ils avaient consommé de l'alcool de contrebande. Des fois, il y avait un petit peu de honte sociale par rapport à ça. Ouais. Ou s'ils habitaient dans une ville sèche, ben c'était un peu de dire « ouais, j'ai contrevenu aux règlements municipaux, je suis allée m'enivrer ou j'en ai ramené chez moi ou pire encore, j'en ai fabriqué ouais. ». On parle d'empoisonnement, mais on peut parler aussi d'explosion. C'est quand même des procédés où on a un appareil qui est chauffé et là, bon, s'il y a de l'alcool là-dedans, ça peut prendre en feu, ça peut exploser. Il y avait vraiment des dangers réels pour les gens qui fabriquaient ces alcools frelatés, comme on disait, ou cette bagosse ou cette baboche ou ces alcools-là à la petite semaine. Donc, c'était dangereux, mais il n'y a pas, malheureusement, de statistiques parce que, justement, ça échappait un peu à la justice.
Les gens étaient dévoués à la cause de faire la fête aux gens, on peut dire.
Oui.
Pour quelle raison que les eaux de vie ont été une des principales cibles des mouvements de tempérance qui ont, entre autres, mené à la prohibition? Et comment là, ces mouvements de tempérance-là sont parvenus à faire modifier les législations, entre autres québécoises?
Ben, ce qu'il faut se rappeler, c'est que la différence essentielle entre un alcool fermenté puis un alcool distillé, une eau de vie, c'est le degré, le pourcentage d'alcool qu'il y a dedans. Hein.
Ouais.
Et bon, on le sait, on n'a pas du tout le même comportement selon qu'on partage un verre de bière ou des petits shooters de fort. On le sait, ça enivre beaucoup plus rapidement quand on est dans la seconde catégorie, quand on est dans l'alcool distillé. Et ben au 18e siècle, ça faisait pas défaut. Là. Les gens étaient un peu là-dedans aussi. Quand on essaie d'implanter un comportement, ou plutôt une nouvelle consommation dans un ensemble de comportements qui existent déjà, ben des fois, faut faire des petites modifications. Puis là, s'attabler puis boire autant... Mais avec de l'eau de vie, c'était évident que ça marchait pas. C'était un aller simple vers les problèmes. Ouais. Il y a eu d'abord des périodes des campagnes de tempérance. On demandait aux gens, surtout sur une base religieuse, de dire « je renonce à la bouteille pour me consacrer à Dieu, pas déplaire au Seigneur, blablabla ». Ça s'est vu beaucoup du côté anglo-saxon, mais on en a eu aussi beaucoup du côté catholique. Mais ça, c'est plutôt au 19e siècle. Au 20e, c'est comme si on se rendait compte, ben, visiblement, d'y aller sur une base volontaire, ça fonctionne pas. Les gens n'ont pas peut-être l'envie réelle de quitter la bouteille puis d'adopter un mode de vie sain, quelle que soit l'appellation à l'époque. Et on me dit, ben, on est obligé à ce moment-là d'établir des campagnes beaucoup plus musclées, effectivement, de prohibition. Les mouvements religieux, entre autres, ou les mouvements de pression sociaux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont justement monter en épingle certains cas. On va utiliser beaucoup ce qu'on voit aujourd'hui encore en publicité. C'est comme de créer une sorte de cas de figure, une persona, un exemple. Et là, on dit, bon, l'histoire du petit Pierre là, qui voit son père s'enivrer puis qui voit la déchéance de sa famille. Et là, que va faire le petit Pierre? Est-ce qu'il va faire comme son papa et s'enivrer tous les jours avec de l'eau de vie, c'est pas bon, etc. Ou devenir un brave travailleur? Et on monte comme ça des histoires en épingle dans les journaux, entre autres, à la radio, les prêches des curés vont beaucoup être axés aussi sur ces histoires-là édifiantes. Donc, on fait beaucoup de travail pour essayer de modifier les comportements, mais à voir la quantité de campagnes qui vont se succéder tout au long du 19e pour la tempérance puis pour la prohibition ensuite au 20e, on se rend compte que ça marche pas. Les gens ne veulent pas arrêter. Et ça, c'est central dans l'histoire du rapport à l'alcool qu'on a au Québec.
En même temps, d'une certaine façon, l'alcool, c'est je veux pas dire que c'est mythique, là, mais c'est tellement ancré dans les habitudes humaines. Là, juste la découverte de la fermentation qui a mené à la bière dans le croissant fertile au Proche-Orient, c'est tellement humain consommer de l'alcool, même si ça a vraiment plusieurs impacts négatifs sur notre santé. Donc, je peux vraiment comprendre pourquoi que les gens ils voulaient pas arrêter. Mais il y a aussi un certain... Ça, peut-être que je m'avance, mais les conditions sociales de l'époque étaient pas les mêmes qu'on a aujourd'hui. On sait que des fois, l'addiction, ça vient plus d'une partie de vouloir engourdir certaines émotions que de vraiment vouloir continuer volontairement. Donc, il y avait peut-être que vouloir encourager les gens à arrêter de consommer de l'alcool, c'était bien en soi, mais il y avait des problèmes sociaux qu'il fallait peut-être régler avant.
Absolument. Puis tu fais bien de le pointer parce que c'est exactement ça. On voit l'essor de l'alcoolisme, ça va un peu de pair avec l'industrialisation. Mm-hmm. À partir du moment où on prend un être humain puis on l'enferme dans une usine 18 heures par jour, à un moment donné, ça se peut que la personne ait besoin de ventiler. Hein? Ouais. C'est tout simplement, comme tu disais, humain. Et l'alcool, ben, c'était une de ces soupapes-là. Et de vouloir retirer le moyen, la soupape, sans rien changer à la situation de base, sans rien changer à la détresse
même
sociale.
Même encourager ce qui va donner la détresse. Donc, encourager d'aller travailler plus fort pour être un brave travailleur. Là.
Oui, tout à fait. Et tout ça concourt à essayer de construire une société où les gens vont être très, très productifs et on va essayer d'enlever les éléments peut-être plus de fête et tout ça, ou d'évasion ou d'adoucissement. Et là, ça ne fonctionne pas. Donc, je pense que c'est quand on observe l'obstination avec laquelle les Québécois, mais ça s'observe ailleurs aussi, mm-hmm. Aux endroits où il y a de la prohibition, mais si on parle du Québec, l'obstination avec laquelle les Québécois ont voulu continuer à en fabriquer, à en commercer, à en consommer, ça montre que l'alcool est vraiment, vraiment imbriqué là, ouais. à nos façons de faire. Oui. Mm-hmm.
La bière, c'est possiblement un des alcools les plus consommés au Québec, mais aussi au monde. Sa consommation et les lieux ont impacté socialement, mais aussi culturellement le Québec.
Ben si on parle de lieux, je pense qu'on peut se parler entre autres de la fameuse taverne.
Ouais.
Parce que ça, je pense que c'est bon. Il existe ailleurs évidemment de ce genre de lieux-là, mais au Québec, la taverne, c'est vraiment un endroit particulier, un endroit très connoté où il s'est développé une façon de consommer qui a duré pendant des décennies. En fait, même ça a traversé quelques générations.
Ouais.
Alors, une taverne, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment un lieu, bon, souvent pas très éclairé, un peu sombre, décoration un peu vieillotte et surtout consommation de bière pas chère, où on va se retrouver, et là c'est important, exclusivement entre hommes. Mm-hmm. Pendant longtemps, les femmes n'étaient pas du tout les bienvenues dans les tavernes. À un certain moment, elles étaient même interdites.
Ouais.
À partir de je pense que c'est les années 50, Maurice Duplessis a dit « les femmes... » pas dans les tavernes, c'est pas bien, c'est mal vu et tout ça, c'est pas leur place.
Mm-hmm.
Et donc, c'était vraiment un amphithéâtre masculin là, de sociabilité, puis de j'appellerais ça même un sas de décompression. Souvent,
ouais.
Les gens sortaient du boulot, sortaient du travail, de l'usine, de la manufacture, de l'endroit où ils étaient. Et avant d'aller à la maison, ben, ils faisaient un détour par le cabaret. C'était comme un lieu pour décompresser avant de retrouver la famille, tout simplement. Bon, on sait que des fois, ce sas de décompression s'avérait un petit peu trop long.
Mm-hmm.
Et des fois, les dames étaient obligées d'aller chercher monsieur à la taverne. Mais effectivement, c'est un lieu qui est... Il y a une riche histoire au Québec. Il y a toute une sociologie de la taverne. En soi, ça, on pourrait en parler dans un livre de 400 pages et on n'aurait pas fait le tour. Là. Il y a mm-hmm. du stock à ce sujet-là. C'est quelque chose. Puis on voit à quel point ça a percolé aussi dans la culture populaire avec des pièces comme Brou. La pièce de théâtre qui a duré, 37 ans officiellement?
Ouais, une très longue production.
C'est,
ouais.
C'est complètement fou, là. C'est une des pièces de théâtre qui a été les plus jouées au Québec sur la longue durée. Et ça se passe dans une taverne, évidemment. À partir du moment où on a admis les femmes dans les tavernes, ben là, tout à coup, tout ça s'est mis à changer. La taverne a perdu en popularité, puis on s'est comme un peu senti obligé d'ouvrir de nouveaux endroits pour accueillir une clientèle mixte, mm-hmm. en fait, sans distinction et sans discrimination.
Quelque chose d'intéressant que vous avez relevé dans le livre, là, c'était le fait que le barman, c'était un peu, pas le psychologue, mais c'était lui qui était un peu à mm-hmm. l'écoute de tous ses clients. Puis ça m'a vraiment fait penser à quelque chose. Le fait qu'il y avait beaucoup d'hommes qui étaient opposés à ce que les femmes aient accès aux tavernes, ça m'a fait penser que c'était une époque où ben, la psychologie, c'était avoir accès à la thérapie mm-hmm. psychologique, c'était pas accepté, encore moins pour les hommes. Donc, d'une certaine façon, j'ai l'impression que le fait que les hommes aient perdu cet espace-là, ça leur a fait peur parce que c'était comme le seul endroit qui pouvait s'exprimer mm-hmm. entre eux, se connecter sur des problèmes qu'ils avaient communs, le travail, la famille, etc.
Mais oui, absolument.
Donc, ils ont comme un peu perdu leur
safe space,
comme on dit.
Oui.
Ultimement, on veut l'égalité, l'équité, l'égalité entre les hommes et les femmes. Mais je pense que pour certains hommes, ça a vraiment été une rupture de perdre cet endroit-là où ils se sentaient en sécurité.
Tout à fait.
Entre gars, pas sans être jugés. Non, mais Mais oui, c'est vraiment une histoire très intéressante, la taverne.
C'était un des derniers remparts, effectivement, où les hommes pouvaient se retrouver entre eux. Puis oui, au nom de l'égalité, on peut déplorer le fait que c'était juste les hommes, mais en même temps, moi j'ai un petit malaise avec ça, finalement. On a décidé tout à coup que non, ça serait mixte. Et pour toute cette catégorie-là de monsieur qui avait peut-être un peu de mal à ventiler leurs émotions, si on veut parler de façon contemporaine, ben c'était un des endroits où ils pouvaient le faire sans se sentir jugés. Le barman qui était un peu complice là-dedans pour essayer d'apaiser tout ça, puis ben non, mon Raymond, tout va bien. Tu sais, il y avait quelque chose, une solidarité en fait masculine qui était probablement très très précieuse, qui a peut-être sauvé certains hommes d'une espèce de noyade sociale aussi. C'est peut-être le seul endroit où ils pouvaient effectivement aller exprimer des choses qu'ils n'auraient pas pu exprimer ni à leur curé, ni à leur épouse. C'était vraiment un endroit un peu sacré à quelque part. Puis je trouve ça un petit peu dommage que ça ait disparu.
Ouais, effectivement. Maintenant, j'aimerais qu'on parle d'un alcool qui est assez mythique, là, je vais l'employer pour de vrai, pour de bon, ce mot-là, l'absinthe.
Ah.
Comment est-ce que la fée verte, ce personnage emblématique qui était associé à cet alcool-là, est devenue aussi controversée, puis qu'ultimement, l'absinthe a été interdite dans quelques pays d'Europe, et elle a fait son retour, ultimement.
Mm-hmm.
Comment?
Ah, ben l'absinthe, ce qu'il faut dire, c'est que c'est une substance qui est à la fois, ben c'est un alcool évidemment, mais parmi les différentes plantes dans lesquelles on va, ben en fait qu'on fait macérer dans l'alcool, dans l'absinthe, il y en a quelques-unes qui ont des composés qui sont un petit peu plus nocifs.
Mm-hmm.
Et c'est le cas entre autres d'un élément qu'on appelle la thuyone. La thuyone, c'est un peu l'espèce d'huile aromatique qu'on retrouve aussi dans le thuya, hein, quand on se passe la main dans une haie de cèdre,
oui,
là, la petite odeur qu'on a.
Ah, OK, ouais, c'est vrai.
Donc, ça veut pas dire de se mettre à infuser votre haie de cèdre en fin de semaine, mais c'est le même composé, en fait, ou très, très proche. La thuyone, c'est une substance qui, à haute dose, entre autres dans un alcool distillé, si on le fait fermenter, tout ça, peut provoquer des hallucinations.
OK.
Et c'est pour ça que la fée verte, comme on l'appelait à l'époque, elle était verte, justement, avec toutes ces herbes qu'on mettait dedans, on a assez rapidement associé ça à une créativité artistique, les littéraires, les peintres. Il y a eu toute une mouvance autour de l'absinthe, beaucoup, beaucoup en Europe, un petit peu au Québec également, entre autres à Montréal, avec une école littéraire, un club, le Club des Six Éponges.
Oui.
Donc, quelques personnes qu'on connaît bien, autour desquelles gravitaient des gens comme, entre autres, Émile Nelligan, et plusieurs autres, se tenaient dans des troquets où on servait l'absinthe. Il y a eu donc cette mythologie-là qui a contribué à la catégoriser vraiment dans une place à part là, dans notre imaginaire des alcools. Mais il en demeure pas moins que c'était quand même nocif. Mm-hmm. Les gros buveurs d'absinthe pouvaient développer réellement de gros problèmes. Pas seulement parce que l'alcool lui-même était à forte teneur, justement, en alcool, mais c'est ça, avec la thuyone et tout, ça développait vraiment des problèmes. Et comme ça, on s'est rendu compte dans les pays producteurs, donc en France, en Suisse, on a décidé de l'interdire. À un moment donné, on s'est dit, là, ça n'a pas de bon sens. Il y a des problèmes, des désordres sociaux. L'heure verte, comme on l'appelait, l'espèce d'heure de l'apéro, était devenue, c'était une horreur, là, les gens s'enivrait vraiment trop. Alors, on a décidé de cesser la production, ni plus ni moins. Ici, elle n'a jamais été interdite. Donc ça, c'est important de le préciser. Il n'y a jamais eu d'interdiction formelle, mais dans la mesure où on n'en fabriquait pas au Québec, ben s'il y en a plus, il n'y en a plus. Alors, on a tout simplement cessé de la consommer. Et il a fallu attendre la fin du 20e siècle pour voir ressurgir une production. Là, tout à coup, avec les appareils contemporains, ben on a été capable de mieux calibrer la teneur en thuyone, de mieux gérer les potentiels effets là qu'il y a dans l'absinthe qui est fabriquée aujourd'hui. Et maintenant, ben on en a de l'absinthe au Québec, dans plusieurs autres, même les provinces maritimes aussi, on a des absinthries. C'est un nom qu'on n'est pas habitué d'entendre,
non,
mais il va peut-être falloir s'y habituer parce que je pense que c'est là pour rester.
Ouais.
De la même manière qu'on a des producteurs de cidre, ben on a des producteurs d'absinthe maintenant. Et on s'est rendu compte que la plante de base, qui s'appelle la grande absinthe, qui est une espèce de grosse plante, ça a un look un peu d'aloès, là, pas tout à fait d'aloès, mais en tout cas, ça pousse dans les terres sablonneuses et ça pousse très bien, entre autres, en Beauce.
Oui.
Donc, on s'est rendu compte que, finalement, il y aurait peut-être quelque chose à faire avec les sols beaucerons pour la production d'absinthe.
Effectivement. Et aussi, Ben, l'absinthe était un peu consommé comme le vin parce que c'était à une époque où il y avait eu des infestations dans les vignes, donc la production vinicole avait diminué. Les gens consommaient de l'absinthe un peu à la même façon, les mêmes quantités, mais le degré d'alcool est vraiment plusieurs fois élevé. Donc, je peux imaginer là, les gens qui prennent leur petit apéro, mais avec deux verres d'absinthe.
Oui, c'était très, très fort. Puis tout le rituel autour de l'absinthe, parce que je sais pas si parmi les auditeurs, il y en a qui en ont déjà consommé ou vu dans les films, mais il y a tout ce rituel avec la petite cuillère percée qu'on vient placer sur le verre. On met un cube de sucre et ensuite, on laisse traverser un filet d'eau très, très froide pour dissoudre le sucre et aller se mêler au liquide qui est en dessous. La cuillère fait comme une sorte de petite passoire, si on veut. Et ce rituel-là faisait aussi partie de la mythologie de l'absinthe. Ça, c'est sûr que du côté des artistes, c'était très apprécié, mais même le quidam qui allait dans un café quelconque consommer l'absinthe avait droit lui aussi à sa petite cuillère percée et tout ça. Donc, il y avait une espèce de cérémonial autour de la consommation. Puis, les gens n'aimaient pas devoir renoncer à ça pour aller vers autre chose.
Avant de conclure notre émission, parce qu'on est déjà rendu presque à la fin, j'aimerais vous poser encore deux petites questions. Qu'est-ce que la consommation d'alcool des Québécois depuis le début de la colonie dit sur notre peuple?
Ça dit qu'on n'est pas nécessairement un peuple monolithique dans le sens où on ne va pas tous dans la même direction en même temps. C'est pas parce qu'à certains moments, c'était la bière, que tout le monde aimait la bière. C'est pas parce qu'à certains moments, on fait du bon vin que tout le monde va vers le vin ou que les circuits d'importation sont super bons et qu'on a des vins de partout dans le monde que tout le monde se met à boire du vin. Même chose pour les différents alcools. En fait, il y a beaucoup de seuils individuels là-dedans, de choix. Toute la question de qu'est-ce qu'on a envie de boire. On est très... peut-être parce qu'on n'est pas à la base un peuple de producteurs tant que ça. On a eu accès beaucoup à des alcools importés, à une multiplicité aussi. Et ça nous a peut-être, je pense, comme peuple, habitué à faire des choix en fonction du contexte, tout simplement. Hein, c'est la fin de la journée... on va avec des amis, tout à coup, c'est la bière qui s'impose. En été, pourquoi pas un bon pichet de sangria, hein, même si c'est pas du tout un alcool patrimonial au Québec. C'est ça, on parlait d'absinthe il y a quelques instants. J'ai pas encore eu vent de gens qui l'aient intégré comme ça à leur rituel, mais j'ai l'impression qu'il doit quand même y en avoir aussi par choix, tout simplement, par esthétique, par goût. Alors, on est très sélectif et on est très orienté par ce qui nous fait plaisir, tout simplement. Mmh. On se sent pas obligé de consommer telle ou telle boisson. On y va tout simplement avec notre cœur.
Ouais, c'est des bonnes paroles. Y aller avec son cœur. Si on avait à choisir, quelle serait la boisson québécoise?
Non,
celle qui a le plus marqué le Québec. Et pourquoi?
Ah, ça, c'est trop difficile à répondre. Ben, même si je sais que c'est pas un choix qui fait l'unanimité, mais je pense que en ce moment, ce qui se passe avec les alcools autour de l'érable, sérum, le coureur des bois et tout ça, je ne veux pas faire de publicité pour aucune marque, là, ceci dit, mais on voit se développer des alcools qui sont tirés d'un élément qui est vraiment, lui, très, très patrimonial, l'érable, la sève, le sirop, le sucre. Ça, je trouve ça très, très, très intéressant à suivre. Je trouve que là, il y a une originalité, il y a vraiment un faisceau culturel qui va peut-être être à suivre parce que, à part ici, je vois pas où on pourrait faire ça ailleurs dans le monde. Hein. C'est vraiment unique. Et peut-être si je fais une petite dérogation, j'en ai nommé un, mais je vais me permettre un deuxième candidat.
J'accepte.
Le cidre de glace.
Oui.
Parce que ça aussi, c'est une innovation québécoise, il faut le rappeler. Autant le vin de glace, c'est quelque chose qui vient du nord de l'Europe, de l'Allemagne et tout ça. Autant le cidre de glace, c'est une idée, une initiative québécoise qui a fait des petits. Il y en a maintenant un peu partout dans le monde, mais on est encore un très, très gros producteur de cidre de glace. On exporte au Japon, on exporte partout. Ça, c'est assez phénoménal aussi. Donc, si on y va dans la typicité, le côté très, bon, on va dire unique, ça serait aussi un bon candidat pour le titre d'alcool emblématique du Québec.
Ben oui, je pense qu'on devrait faire en sorte là, que ça soit élu. Là, comme on a des fleurs, on a des animaux emblématiques, on devrait mettre ça...
symbole alcoolique du Québec.
Oui. Donc, c'est ce qui met fin à notre émission. Madame Ferland, un énorme merci d'avoir participé à l'émission, à la discussion. Ça a vraiment été super intéressant. Ça nous a permis d'en apprendre davantage sur l'histoire de nos boissons préférées, puis aussi le rapport complexe qu'on a avec l'alcool. J'espère là, qu'à la maison, en fait, là, vous en avez appris autant que moi, que vous avez eu autant de plaisir et que maintenant, vous êtes peut-être mieux en mesure de comprendre comment ces alcools qu'on peut généralement se procurer à la SAQ ont influencé notre société. Si vous voulez en apprendre davantage sur l'alcool au Québec entre le 16e et le 21e siècle, vous pouvez vous procurer le livre de Madame Ferland au septentrion.qc.ca ou chez votre libraire. Donc, c'était Madame Ferland. Merci beaucoup. C'était « Qu'y a-t-il à boire au Québec au 16e et 21e siècle? » Entrevue avec Catherine Ferland, autrice de « À boire, alcool et buveur, 16e, 21e siècle ». Je suis Marie-Andrée Tanguay. J'espère que cette émission de 3600 secondes d'histoire vous en a appris autant que moi. Et je vous dis à la prochaine sur les ondes de Chiz 94.3 FM.
Écoute locale. Écoute Chiz 94.3.
Ici Marie-Joseph Corriveau. J'avoue que je trouve ma sentence bien sévère, mais au moins, grâce à ma cage, j'arrive à capter 3600 secondes d'histoire les mercredis à 18h30 sur les ondes de Chiz 94.3 FM.
L'ACADEL, c'est ton association étudiante à l'Université Laval. Avec plus de 35 000 membres, nous défendons tes droits, offrons des services pratiques et créons des activités qui font vibrer la vie de campus. L'ACADEL est là pour t'accompagner, t'inspirer et surtout booster ta session.
Yo, man, ça nous prend du cash là, là.
Je le sais, puis j'ai un plan. On va aller le prendre au Canac.
Oh, ouais, on va rentrer le soir.
Non, man. On va rentrer le matin. Drette quand ça ouvre.
Yo, ils s'attendront pas à ça.
Ah non, ils vont nous attendre solides. On va être sur l'horaire.
Hein? Ben là, comment on va faire pour se mettre sur l'horaire du Canac?
Man, on va y aller d'avance, passer une entrevue, puis ils vont nous mettre eux-mêmes sur le shift.
Oh, comme Hollywood! OK, mais en dedans, on fait quoi pour le cash?
On va genre aider du monde,